RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi Politique sur RFI et France 24. Bonjour Frédéric Rivière.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous recevons Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc le gouvernement est sur les dents pour cette journée de mobilisation du 1er mai. Entre 1000 et 2000 Black Blocs sont attendus et pourraient s'introduire dans les manifestations. C'est des violences que vous craignez ?
Oui, bien sûr, et comme à chaque fois d'ailleurs, parce qu'on le voit à chaque manifestation, des milices d'extrême-gauche viennent dans l'impunité la plus totale pour s'en prendre au mobilier urbain, pour casser les commerces, pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On a tous en tête les images du 1er mai, l'an dernier, où vous avez près de 1500 militants d'extrême-gauche organisés en Black Bloc qui sont venus sur les Champs-Élysées, dans les rues de Paris, pour tout casser encore une fois. Et on a ce sentiment d'impunité et de laxisme total à leur égard. Beaucoup de syndicats de police d'ailleurs dénoncent et ont dénoncé pendant le 1er mai l'an dernier le fait qu'ils avaient la possibilité logistique, technique d'intervenir, mais les ordres ne viennent pas. Donc je pense que ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, joue un jeu trouble à leur égard. Et je me demande si on laisse pas effectivement, comme on l'a fait lors des manifestations des Gilets jaunes, ces militants d'extrême gauche venir pour tenter de discréditer un mouvement social. C'est une question que je pose, parce qu'on a su par le passé, sous le gouvernement de Manuel Valls, par exemple, dissoudre des groupuscules, des milices, des organisations qu'on considérait comme violentes et d'ultra-droite. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui avec ces milices extrêmes, qui sont systématiquement les mêmes d'ailleurs, hein. Mais on voit sur les pages Facebook, les appels à manifester, les types sont parfaitement identifiés, et effectivement, face à ça, on ne fait pas grand-chose.
Mais est-ce qu'en vérité, il n'est pas quand même quasi impossible d'empêcher des casseurs de casser, comme il est extrêmement difficile d'empêcher des voleurs de voler?
Mais il faut faire preuve de la sévérité la plus totale.
Oui, mais
il faut donner les ordres.
Après coup, ça c'est peut-être la réponse judiciaire.
Moi j'ai vu, pendant les manifestations des Gilets jaunes, parfois plusieurs centaines d'arrestations, sans doute préventives, à l'égard de Gilets jaunes qui manifestaient dans les rues de Paris début décembre. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec ces militants d'extrême-gauche qui sont venus notamment dans les mouvements des Gilets jaunes pour encourir les revendications? Donc je pense que quand on veut, on peut. Voilà, quand on veut maintenir l'ordre, on peut le faire. La France est réputée au niveau mondial pour ses techniques de maintien de l'ordre. Et donc je pense que si on veut faire preuve de la sévérité totale, alors on peut le faire. Et si Monsieur Castaner n'en est pas capable, eh bien, qu'il rende les clés de son bureau et qu'il nous laisse les manettes, nous on va faire.
Est-ce que d'après vous, le mouvement des Gilets jaunes s'accroche aussi aux casseurs et chacun profite dans le fond de la situation? Car pour certains Gilets jaunes, et ils le disent, la violence sert aussi la cause pour, à un moment, faire plier un gouvernement.
Non, je crois que c'est totalement l'inverse. Dès le début de ce mouvement des Gilets jaunes à la mi-novembre, nous, on a soutenu les revendications des Gilets jaunes parce que c'était des revendications de bon sens sur la baisse des impôts, sur l'absence de représentation aujourd'hui, sur le sentiment qu'ont beaucoup de Français de plus se sentir représentés.
Parce que vous dites au début, donc ça veut dire que c'est plus le cas maintenant.
Ça veut dire que ce mouvement... Non, mais on soutient les revendications. On a soutenu les vrais Gilets jaunes, ceux qui, dans les provinces, manifestaient pacifiquement, les mères de famille. Mais... j'ai vu dans les grandes villes des milices d'extrême-gauche, c'est-à-dire ceux qui sont jaunes à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, et qui viennent dans ce mouvement pour en discréditer les revendications et pour faire preuve de violence. Et ça, c'est intolérable. Et c'est vrai que beaucoup de vrais gilets jaunes qui étaient là depuis le départ ont été dissuadés d'aller manifester parce qu'ils avaient peur des violences, parce qu'ils craignaient un usage parfois douteux des lanceurs de balles de défense contre des personnes qui manifestaient de manière pacifique et de la part de ces milices d'extrême-gauche. Donc ce mouvement, si vous voulez, les revendications vont rester. Parce que Emmanuel Macron n'a pas répondu aux revendications principales. Alors il met du sparadrap, il nous explique qu'il va baisser les impôts sur les ménages, mais qu'en même temps il va augmenter les impôts sur les entreprises en supprimant les niches fiscales. Il nous exprime qu'on va avoir une dose de proportionnelle qui est homéopathique. Parce que 20% de proportionnelle, quand on baisse le nombre de députés à 400, en réalité ça fait 80 députés à la proportionnelle. Donc c'est dérisoire. Et puis encore une fois, il nous dit « je maintiens le cap ». Donc la colère des Français, elle a de beaux jours devant elle. Voilà.
On va revenir sur un certain nombre de ces mesures annoncées par Emmanuel Macron, mais d'un mot, le mouvement des Gilets jaunes, il semble quand même un peu marquer le pas en termes de mobilisation. Est-ce que cette journée du 1er mai peut être l'occasion d'une espèce de nouveau souffle?
Mais je ne sais pas, et très franchement, c'est pas à moi de le dire. On a toujours eu cette attitude, on a toujours été franc vis-à-vis de ce mouvement. C'est-à-dire, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est à la fois transpartisan et apolitique. Il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen, il y a des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens déçus d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui se sont abstenus. Mais moi, je dis, ce mouvement, il appartient à aucun parti politique. Ce mouvement a, c'est vrai, été récupéré dans les grandes villes, mais il y a des revendications qui demeurent. Et aujourd'hui, il y a des attentes très fortes dans le pays. Et quand Emmanuel Macron nous explique qu'il a compris, mais qu'il maintient le cap et qu'il va continuer sa politique, eh ben, je me dis que si les Français n'ont pas réussi à se faire entendre, alors ils doivent se servir des urnes. Et que la meilleure réponse qu'on peut adresser à Macron, à sa déclaration, ça s'appelle voter. Et c'est voter pour les élections européennes le 26 mai.
Vous vous dites que vous ne faites pas de récupération pour les Gilets jaunes, parce que dans le fond, vous savez que beaucoup, il y a eu des études là-dessus, votent pour le Rassemblement National.
Mais il y en a qui votent pour le Rassemblement National, il y en a qui ne votent plus, il y en a qui votent pour la... C'est pas le problème. Les Gilets jaunes, c'est des Français qui n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. C'est des Français, c'est des mères de famille, c'est des chômeurs, c'est des ouvriers, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui considèrent qu'ils ne sont plus représentés aujourd'hui dans le pays, que les gens qu'ils élisent sont systématiquement le contraire, et qui ont décidé de manifester, d'aller exprimer une colère avec un gilet jaune. L'essence même de ce mouvement, c'était les taxes sur l'essence. Bon, quand moi j'entends tous les ministres de La République En Marche nous expliquer qu'ils vont reconduire cette taxe carbone à janvier de l'année prochaine, je me dis qu'ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se passer dans le pays. Quand j'entends qu'on va augmenter l'électricité de 6% début juillet, quand j'entends que le prix du top 100 du produit du caddie de course, le top 100 des produits consommés a augmenté de 5%, je me dis qu'ils n'ont strictement rien compris en réalité, et que c'est vrai, la colère des Français a de très beaux jours devant elle, malheureusement.
Alors on va parler des mesures que vous avez évoquées il y a quelques instants, donc il y en a beaucoup, on va en prendre les principales, c'est-à-dire donc la mesure sur la baisse des impôts. À peu près 15 milliards de foyers vont voir leurs impôts baisser, 2 milliards on va dire pour qui ça ne va pas, les plus riches, qui ne vont pas eux avoir de baisse d'impôts, la réindexation des retraites sur l'inflation, la proportionnelle dont vous venez d'en parler quand même. Est-ce que vous vous dites pas il y a eu un pas de fait?
Non, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Enfin, une majorité de Français qui, après avoir écouté Emmanuel Macron, ne se sent pas en l'occurrence écouté et ne s'est pas senti représenté dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Parce que
vous auriez voulu quoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu?
Si vous voulez, quand on nous explique qu'on va baisser les impôts sur les ménages pour les augmenter sur les entreprises, en vérité, ça s'annule. Et ce qui vous donne de la main droite, c'est bien le problème d'Emmanuel Macron. Il leur prend le double de la main gauche. Je vous citais l'augmentation...
Mais il n'est pas forcément illégitime de réfléchir à la pertinence de certaines niches fiscales pour les entreprises.
Non, mais
il y en a peut-être qui ne sont pas très cohérentes, qui n'ont peut-être pas d'utilité.
Bien sûr, sauf que pénaliser les TPE-PME à l'heure où ce sont elles qui créent l'emploi...
Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les niches qui seront concernées.
Vous avez raison, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il s'est contenté de faire des annonces de candidats à l'élection présidentielle, Monsieur Yaka Faucon, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va être fait de manière très concrète. Sur les retraites, mais parlons de la question des retraites. Ce qu'ils veulent faire avec la réforme des retraites qui interviendra après les élections européennes, et s'il arrive en tête aux élections européennes, il va se sentir légitimé pour la faire. C'est un mode de calcul par points. Ça veut dire que aujourd'hui, la retraite est calculée sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. En ayant un mode de calcul unique sur l'intégralité de la carrière, l'objectif évidemment, c'est de faire baisser les pensions de retraite, et la pension de retraite va baisser. Et en réalité, il nous explique qu'il va pas décaler l'âge de départ à la retraite, mais il y aura un système de décote. Et donc en réalité, si vous partez à 62 ans, vous perdrez peut-être 15-20% à 65
c'est
ans, vous perdrez
peut-être à travailler
30%.
Plus.
Non, c'est une incitation à faire des économies toujours sur les mêmes. Voilà, la réindexation des pensions de retraite, soyons sérieux, c'est il rend une partie de l'argent qu'il a pris aux Français. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement des Gilets jaunes et ce mouvement de colère qui s'est exprimé dans les rues du pays, alors les pensions de retraite auraient été désindexées de l'inflation. Donc, il l'a dit clairement, il nous explique que peut-être il comprend le sentiment d'injustice, mais 5 minutes après, il nous explique qu'il maintient le cap et qu'il va poursuivre sa politique. Alors, si effectivement il arrive en tête des élections européennes le 26 mai, il va se sentir légitimé pour faire la réforme des retraites, pour baisser l'indemnité chômage, pour assumer derrière les augmentations diverses et variées qui vont intervenir sur l'électricité, sur la CSG, sur la taxe sur l'essence qui va revenir en janvier. Et donc je me dis que fondamentalement, il n'a rien compris. Et puis sur deux sujets de fond dans notre pays que sont l'immigration et l'insécurité, que dalle, zéro.
Le fait que s'il arrive en tête, il se sentira légitimé pour faire tout ce qu'il veut, c'est un message que vous martelez, que Marine Le Pen martèle. Ça donne vraiment le sentiment que pour vous, l'enjeu de la campagne, il est quand même d'abord national.
Oui.
Vous l'assumez.
Tout à fait.
Et un peu comme Mélenchon.
Encore une fois, oui, sauf qu'en l'occurrence, notre liste est au coude à coude.
Oui.
Et nous sommes les seuls aujourd'hui capables d'arriver en tête de ces élections européennes devant La République En Marche. Évidemment que c'est une élection européenne, évidemment qu'il y a un enjeu européen, mais ce que Macron veut faire demain au niveau européen, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au niveau français. Alors, effectivement, ils vont choisir soit l'Europe des nations, soit l'Europe de Macron. C'est-à-dire soit on continue vers cette fuite en avant fédérale, soit on continue de transférer des leviers toujours plus importants de nos pouvoirs de décision à Bruxelles en matière économique, en matière migratoire, et on continue avec les traités de libre-échange, ça c'est ce que veut faire Macron, soit on décide d'avoir une Europe des nations, que chaque État retrouve ses prérogatives, possibilité de faire du patriotisme économique, possibilité de choisir son budget, possibilité de choisir sa politique migratoire, et beaucoup de choses, effectivement, ce qui se décide à Bruxelles a des conséquences très concrètes sur la vie des Français. Mais c'est la première élection nationale depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Qu'est-ce qui resterait comme noyau commun dans votre scénario ?
Et les Français doivent s'en sévir comme d'un référendum sur sa politique.
Donc ce sera les élections, ce sera le juge de paix ?
Il faut se servir des élections européennes pour mettre un carton rouge et stopper la politique d'Emmanuel Macron. Parce que effectivement, s'il arrive en tête, je dis, il va se sentir légitimé. Et alors, tout ce qu'il a fait depuis le début de son quinquennat, en matière économique, aucun résultat. 50 000 demandeurs d'emploi en plus entre mai 2017 et mars 2019, toutes catégories confondues. Les petites phrases, les humiliations, l'arrogance, tout cela, ça va continuer. Donc, moi, je dis aux Français, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre. Il s'apprête à poursuivre sa politique, donc saisissez-vous des urnes pour vous faire entendre. Et surtout, envoyez un message très clair en Europe, parce que le courant d'idées qu'on incarne en Europe, il est en train d'arriver au pouvoir partout, en fait, en réalité. Lui, il est isolé sur la scène européenne. Nous, nous avons des alliés, nous avons Salvini qui gouverne en Italie, nous avons le FPO qui gouverne en Autriche, et c'est parti du bon sens. Parce que c'est ça ce qu'on veut faire, nous, c'est remettre un peu de bon sens dans la politique, ce qu'on est en train d'arriver au pouvoir partout.
Ce que vous voulez, dans le fond, c'est que c'est de changer... d'espérer pouvoir changer l'Europe oui. de l'intérieur, mais avec quand même le risque de la bloquer et que plus rien ne se passe. Mais donc, in fine, vous vous retrouvez dans une situation de blocage où rien n'avance.
L'Europe est déjà bloquée aujourd'hui. Regardez la taxe sur les GAFA. Oui. On a essayé de mettre en place une taxe sur les GAFA au niveau européen. Elle est bloquée au niveau du Conseil. Donc, en réalité, rien n'avance. Et cette Union européenne, elle organise l'impuissance collective. Nous, l'Europe qu'on défend, c'est une Europe qui a marché par le passé. C'est l'Europe des nations qui a fait Ariane, qui a fait Airbus, où chaque pays est libre, où chaque peuple est libre de décider de ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour son économie, ce qui est bon pour son identité, ce qui est bon pour son processus démocratique. Pas, si vous voulez, cette espèce de machin technocratique où ces commissaires européens que personne ne connaît, qui décident de ce que vous allez manger, qui décident du nombre de migrants qui va vous être imposé dans votre village, juste à côté de chez vous, dans un gymnase qui sera réquisitionné, parce que sinon la Commission européenne vous inflige des amendes. Donc c'est ça le choix qui va se poser. Et chaque fois qu'on a demandé l'avis des Français sur l'Union européenne, ils l'ont rejeté. Ça a été vrai en 2005 sur la Constitution européenne, et ça a été vrai en 2014 lorsqu'ils ont mis le Front National en tête.
Il y a des concepts nouveaux qui sont apparus, qui sont défendus dans votre campagne. Le localisme et le juste échange. Vos adversaires présentent le localisme comme une vision identitaire de l'écologie. Est-ce que vous assumez cette vision des choses ?
Le vrai clivage du 21e siècle, en fait, il est entre les localistes et les globalistes. C'est-à-dire, il y a ceux qui continuent de défendre ce modèle économique où, en fait, on n'a plus de frontières économiques. On va produire en Chine, très loin, dans des conditions sanitaires, sociales, environnementales complètement délirantes. On rapatrie en Europe pour vendre à des populations touchées par le chômage, par la précarité, pour ensuite aller recycler en Afrique. Ce modèle, il n'est pas viable et il est en train de tuer la planète. Nous, ce que nous disons, c'est que l'avenir est au localisme et qu'on doit pouvoir produire ici tout ce qu'on peut raisonnablement produire. On ne pourra pas tout fabriquer sur place, on ne pourra pas tout fabriquer en France, mais dans la mesure du possible, je veux que, en matière économique, par exemple, dans les cantines de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, on aille consommer des produits du coin, des produits qui sont fabriqués par nos agriculteurs, par nos éleveurs, avant d'aller chercher des produits du bout du monde. Aujourd'hui, dans la restauration, c'est 75% du bœuf qui est d'origine importée. Mais moi, je veux inverser ça. Et en fait, le localisme, ça revient à détaxer la proximité, parce que aujourd'hui, plus vous allez chercher un produit loin, moins il est cher. Eh ben nous, on veut inverser tout ça. Et on ne fera pas d'écologie sans changer de modèle économique. Et donc, il faut changer de modèle économique. Et à ceux qui nous parlent d'un rétrécissement, il n'y a qu'en étant fort sur nos marchés intérieurs que demain, on pourra exporter. Parce qu'aujourd'hui, ce modèle du libre-échange total, qui est un vieux modèle, parce qu'en fait, Macron, il défend des idées des années 80-90, l'ouverture, le libre-échange total, tout ça, c'est fini. Et toutes les grandes puissances qui marchent aujourd'hui dans la mondialisation, elles marchent parce qu'elles se protègent. Parce qu'elles protègent leur marché public.
Pensez aux États-Unis, à la Chine.
Mais bien sûr, à toutes ces grandes puissances. Et j'ai le sentiment que même si on n'est pas au pouvoir, nos idées sont au pouvoir partout, en fait. Parce que toutes les grandes puissances font du patriotisme économique, protègent leurs filières. Les marchés chinois sont quasiment infranchissables quand les nôtres sont ouverts au monde entier, maîtrisent leurs frontières et sont des nations libres et souveraines.
Mais alors, qu'est-ce que vous dites quand votre ami Salvini accepte de négocier contre l'avis de l'Europe avec les Chinois?
Mais, parce que ça veut bien dire que l'Union européenne est totalement incapable d'avoir une stratégie industrielle et que
ce qui va se passer, c'est
les
que
accords économiques sont le fait de nations. Et si l'Italie estime que c'est bon pour son économie que de négocier
sur le port de Trieste avec les Chinois,
c'est à eux d'en décider. Ce n'est pas à moi de décider ce qu'il faut faire pour le port de Trieste. Et si l'Union européenne était forte et si l'Union européenne avait une stratégie industrielle, eh bien peut-être que nous pourrions avoir un marché européen qui est fort. L'autre jour, j'étais dans la Sarthe aux côtés des salariés d'Arjowiggins, qui est une papeterie en liquidation judiciaire, où 600 salariés vont être mis sur le carreau, avec derrière des dizaines et des dizaines d'emplois qui font vivre les villages. L'État pourrait intervenir, mais la réglementation européenne interdit l'État stratège d'intervenir. Donc il faut s'affranchir de toutes ces règles qui aujourd'hui sont en train de nous tuer.
Un petit mot de l'euro, la monnaie unique, puisque bon, c'est que il n'est plus question maintenant de la quitter.
Oui.
Pour quelle raison est-ce que le Front National, à l'époque Front National, était dans l'erreur quand il proposait de sortir de l'euro? Ou est-ce que c'est les Français qui n'ont pas bien compris et du coup vous vous êtes adapté?
Non, j'ai pas cette vision dogmatique en fait, j'ai une vision hyper pragmatique. L'euro est évidemment un boulet pour notre économie. Il y a une étude allemande qui est sortie il y a quelques jours qui nous explique que l'euro, depuis sa mise en place, aura coûté 53 000 euros par habitant depuis sa mise en place en France, alors qu'elle a fait gagner 20 000 euros par habitant en Allemagne. Donc l'euro, par sa surévaluation et par ses dysfonctionnements dans sa gouvernance, a été un frein au développement et à la compétitivité de notre économie. Maintenant, les Français nous ont dit lors de l'élection présidentielle, nous ne souhaitons pas sortir de l'euro, nous ne souhaitons pas quitter l'euro. Et donc, il faut composer avec cela, il faut écouter aussi ce que nous ont dit les Français. Et demain, on a évolué sur la question européenne parce que le contexte a évolué et que nos alliés sont en train d'arriver au pouvoir partout. Eh bien, on renégociera avec eux, notamment sur la gouvernance de l'euro, peut-être revenir sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et puis, la Banque Centrale Européenne a aujourd'hui comme objectif exclusif de lutter contre l'inflation. Il faut qu'elle ait comme objectif de lutter contre
l'inflation. Comment ça va se passer en un mot avec vos alliés au lendemain de l'élection européenne? Vous citiez les Italiens, les Autrichiens. Comment ça va se passer avec eux? Est-ce que vous allez pouvoir faire un groupe unique?
Je vous répondrai le 27 mai au matin. L'objectif, c'est évidemment...
Ça ira si vite que ça.
C'est une allégorie, mais on va évidemment travailler dès le 27 au matin la constitution de ce grand groupe souverainiste en Europe. Si nous avons la majorité, tant mieux. Si nous n'avons pas la majorité, l'idée, c'est d'avoir cette minorité de blocage qui puisse permettre de refuser tous les textes qui sont nocifs pour nos intérêts, pour nos peuples. Je pense au traité de libre-échange, je pense aux quotas de migrants. En réalité, il y a des partis qui vont aussi arriver sur la scène européenne. Je pense à Vox en Espagne et d'autres qui demain seront amenés à gouverner.
Merci, voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Merci Jordan Bardella et on se retrouve la semaine prochaine. Rosine.
Merci à vous, oui, la semaine prochaine. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.